à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La vie des livres. Christophe, pour vous accompagner jusqu'à 11h. Un numéro un peu spécial aujourd'hui, numéro exceptionnel de La vie des livres. 2 heures d'émission avec 8 conteurs et conteuses pour terminer l'année 2019. Alors, sont ici en studio Manuela Yapas, Jean-Yves Vincent, Liliane Tillois, et puis également Florence D'Argent, Caroline Dewell, Mathilde Van Der Risten, et ils n'ont pas pu être parmi nous, mais ils nous ont enregistré 2 contes, Fabien Delorme et Christophe Grimaupont. Voilà pour les conteurs et conteuses qui sont avec nous aujourd'hui. Eh bien, on va commencer par une histoire avec Manuela Yapas. Bonjour Manuela.
Bonjour Christophe.
Alors, je t'invite à nous raconter ton histoire et puis je te poserai quelques petites questions après.
D'accord. Ce vieux bonhomme, il détestait la fin de l'année. Il détestait décembre et il détestait la fête des lutins. Ce vieux bonhomme, il était facteur. Et à chaque fois, c'était pareil. Tous les ans, en décembre, sa tournée était complètement chamboulée. Il se retrouvait avec une seule et unique adresse à livrer. L'atelier des lutins. Vous me direz, c'est génial. Tous les jours, il pouvait aller voir les lutins préparer les cadeaux. Eh bien, lui, il n'était pas d'accord. Pour lui, ça voulait dire que tous les jours, il devait charger un sac de dizaines, de centaines, de milliers de lettres. Le sac était tellement énorme qu'il ne pouvait pas le mettre sur son vélo. Il était obligé de prendre un traîneau. Vous me direz, c'est génial, une tournée avec un traîneau tiré par des chiens. Eh bien non, il avait bien demandé les chiens, mais on lui a expliqué qu'il y avait une restriction budgétaire, on n'allait pas nourrir les chiens toute l'année pour qu'ils travaillent qu'un mois par an. Du coup, une fois qu'il avait chargé l'énorme sac de courrier sur le traîneau, il attrapait la corde à 2 mains, il a passé sur son épaule et il partait à pied dans la neige. Il quittait les sentiers du village, il coupait à travers champs et il arrivait à l'entrée de la forêt. Dans la forêt, il avançait tout droit jusqu'à l'immense épicéa. Là, il prenait à droite, il avançait tout droit jusqu'à croiser le tout petit pin tout rabougri. Là, il bifurquait légèrement sur la gauche et quand il voyait le gigantesque rocher rose dressé vers le ciel, il bifurquait à droite, il avançait, il savait que ça arrivait. Il sentait l'odeur des bonbons, il sentait l'odeur des chocolats. Et il entendait les clics et les claques, les blics, les blocs, les clanques et les clonques. Et il débouchait dans la grande carrière. Et dans la grande carrière, il y avait un immense atelier, avec de gigantesques fenêtres et une porte. Il voyait la fumée qui sortait par la cheminée. Et il entendait chanter depuis l'atelier. Il frappait à la porte. Et quand la porte s'ouvrait, il y avait un lutin derrière. Il était petit. Il avait un nez pointu, des oreilles pointues, un bonnet vert pointu, une robe verte ceinturée avec des franges pointues, un collant rayé de rouge et de blanc et de petites chaussures vertes pointues. Le lutin, il aidait le vieux bonhomme à faire rentrer le sac dans l'atelier. Quasiment à chaque fois, le sac s'étalait par terre, s'ouvrait et le courrier se répandait à travers l'atelier, mais ça ne gênait pas le lutin. Il lui rendait simplement le sac vide de la veille. Et le vieux bonhomme y repartait, à pied dans la neige, traînant un traîneau vide, le dos complètement cassé, avec juste une hâte, rentrer enfin chez lui. Ce jour-là, on était le samedi 23 décembre. La taille du sac de courrier diminuait, mais il y avait toujours du courrier. Le vieux bonhomme, après avoir fait sa livraison à l'atelier, quand il est reparti, en plus de son dos cassé, en plus de la toux et du nez qui coulait depuis le matin, il avait mal à la tête. Il avait des douleurs partout dans le corps, jusque dans les orteils. Et il se sentait fatigué, encore plus fatigué que d'habitude. Il est rentré chez lui. Il s'est couché dans son lit. Et il a dormi. Il a dormi d'une traite jusqu'au lundi matin. Là, il s'est relevé. Il se sentait mieux. Et il est reparti pour sa tournée. On était le 24 décembre. Le sac allait être tout petit, quelques lettres à peine. Il a pris le traîneau. Il est rentré dans la forêt. Il a tourné à droite au Grand Épicéa, légèrement à gauche au Petit Pin Rabougri. Il a été jusqu'au Grand Rocher Rose dressé vers le ciel. Et il a avancé. Mais il n'a pas senti l'odeur des bonbons. Il n'a pas senti l'odeur du chocolat. Il n'a pas entendu les clics et les claques, les blics et les blocs, les clanques et les clonques. Et quand il est arrivé dans la clairière, il n'y avait pas de fumée qui sortait de la cheminée. Et il n'y avait pas de chant qui sortait de l'atelier. Il a frappé à la porte. Mais il n'y a pas eu de lutin pour lui ouvrir. Il est entré. L'immense atelier était complètement désert. Des tables à perte de vue s'étalaient avec tous les jouets qu'on pouvait imaginer, tous les jouets que tous les enfants du monde entier avaient commandés. Mais aucun lutin. Il a marché. Il a traversé tout l'atelier. Et arrivé tout au bout, il est tombé devant une porte. Il a ouvert la porte. Et là, il s'est retrouvé devant un gigantesque dortoir. Des alignements de lits. Et dans chacun de ces lits, un lutin. Il s'est approché du premier lutin et il a posé sa main sur son front. Le lutin était fiévreux. Il y avait des lutins qui toussaient et des lutins qui se mouchaient. La plupart dormaient. Certains geignaient parce qu'ils avaient mal partout, jusque dans les orteils. Et là, le vieux bonhomme, il a compris. Il avait fait sa tournée avec une grippe. Et maintenant, tous les lutins avaient la grippe. Et ça voulait dire que la fête des lutins tombait à l'eau. Les lutins n'allaient pas pouvoir assurer la livraison comme tous les ans. Les lutins n'allaient pas pouvoir apporter les cadeaux aux enfants. Et là, le vieux bonhomme, il s'est senti coupable et triste. Coupable parce que ça faisait des années et des années et des années qu'il en rêvait que cette fichue fête des lutins, elle tombe à l'eau. Des années qu'il rêvait qu'on lui fiche la paix avec les courriers et toutes ces histoires de cadeaux. Et en même temps, il s'est senti triste. Parce que aucun enfant n'allait recevoir de cadeaux et tous les enfants allaient pleurer à leur réveil. Personne ne comprendrait ce qui s'était passé. Et tout ça, ce serait sa faute à lui. Il a senti qu'on tirait sur sa veste. Il a regardé et il y avait un lutin juste devant lui qui se tenait à peu près sur ses pieds. Ils sont sortis du dortoir, ils ont refermé la porte, ils ont retraversé tout l'atelier et le lutin lui a dit « Tu sais, faut que tu nous aides. Il faut qu'on sauve la fin de l'année, s'il te plaît. » Et le vieux bonhomme, il a dit d'accord. Et ils y ont passé toute leur journée. Et à la fin de la journée, juste avant que le soleil se couche, le vieux bonhomme, il a vu que le lutin, il avait bien travaillé. Il avait pris son traîneau. Il avait agrandi l'habitacle, il avait fait un coffre gigantesque et des patins immenses. Le vieux bonhomme, lui aussi, il avait bien travaillé. Il était facteur, alors les tournées, ça le connaissait. Il avait organisé celle-là, la plus grande, la plus incroyable tournée de sa vie. Il avait bien regardé, là où le soleil allait se coucher en premier sur la planète, là où il se lèverait en dernier. Il avait organisé toute sa tournée pour pouvoir livrer tous les cadeaux pendant la nuit. Avec le lutin, ils ont chargé tous les cadeaux dans le gigantesque coffre du grand traîneau. Ils sont sortis dans la clairière, le lutin a sifflé et des dizaines de rennes sont arrivées. Les rennes qui normalement portaient sur leur dos les lutins qui livraient les cadeaux. Là, ils ont tous été attelés au traîneau. Et grâce à la magie de la fête des lutins, lorsque les rennes ont démarré au galop, le traîneau s'est envolé à leur suite dans les airs. Et là, le vieux bonhomme, il a fait la plus fabuleuse tournée de sa vie. Il n'aurait jamais cru ça, mais il a adoré ça. Passer par les cheminées et déposer les cadeaux au pied du sapin. Et imaginer le sourire des enfants au réveil. Quand ils ont eu livré le tout dernier cadeau au tout dernier enfant de la planète, il est rentré à l'atelier avec le lutin. Il rayonnait. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était senti aussi heureux. Et le lutin aussi. Il les regardait, il était heureux. Et il lui a dit, tu sais, vieux bonhomme, toi, t'as eu l'air d'apprécier. Et nous, de notre côté, on apprécierait une nuit de repos dans l'année. Parce que toute l'année, on fabrique les jouets, tout le temps, sans relâche. Et je t'avouerais que si le 24 décembre, on pouvait se reposer et que toi, tu pouvais assurer la tournée, ce serait plutôt chouette. Et là, le vieux bonhomme, il a compris que Il allait peut-être devenir le facteur le plus fabuleux de toute l'histoire. Et il a dit d'accord. Il s'en serrait la main avec le lutin et le lutin lui a dit « Au fait, moi je m'appelle Flupin. » Et le vieux bonhomme, il a fait « Bah tu sais, moi je m'appelle Noël. »
Très bien, merci beaucoup Manuela. Alors toi, tu nous viens des environs de Lens, hein?
Oui, ça va, j'ai pas eu trop de route contrairement à d'autres.
Voilà, c'est ça. Privilégié parmi tous les conteurs et conteuses ici présents. Alors toi, les auditeurs et les auditrices de Radio Plus te connaissent puisque tu es déjà venu plusieurs fois ici, notamment pour animer des chroniques. Le relevé de compteurs qui a été repris par Florence Largent. Et puis Sciences et Fictions, donc sur la science et la SF. Alors cette histoire, ça fait partie d'un de tes spectacles, Emmanuel?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
D'accord. Peut-être une prochaine.
Peut-être bien. Il y a le lutin qu'on retrouve.
Oui.
Mais voilà, c'est le seul personnage récurrent.
Ok.
Avec le Père Noël quand même.
D'accord. Alors depuis qu'on s'est vu, donc tu as créé Ludiconte.
Oui.
Ludiconte, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Donc c'est quelque chose que tu as créé avec un créateur de jeux, Cyril Leroy.
Oui, effectivement, lui il est auteur de jeux de société, anciennement ludothécaire. Et on s'est dit que ce serait bien de mêler les contes et les jeux de société. Et du coup, on a créé une association Ludi, pour ludique et contes, où on propose des spectacles de contes, des animations, jeux de société ou création d'un jeu de société. Et aussi un spectacle plus ludique, où on mêle à la fois les contes et les jeux de société.
Donc tu interviens partout avec cette configuration, jeu, contes.
Partout, les gens veulent bien de nous.
Très bien. Alors justement, est-ce qu'on va pouvoir te retrouver prochainement, toi ou tous les deux, je ne sais pas.
Il y a deux animations là cette semaine au CCS Cœur de Ville à Liévin.
Ouais.
Et le 30 décembre, Noëlla, un conte de Noël au là. CCS de Liévin.
Ouais. On avait eu l'occasion d'entendre cette histoire de Noëlla.
Oui.
Ici même.
Elle a grandi à la mûrie depuis.
Elle a grandi, d'accord.
Et sinon, le 15 février, à Steinwerk, pour des contes réservés aux adultes, histoire de changer un petit peu des contes de Noël.
D'accord. C'est dans le cadre d'Histoire d'un soir ou pas du tout?
Non, du tout. C'est au musée de la vie rurale pour la Saint-Valentin, le 15 février. Donc, un repas et des histoires pour les grandes oreilles.
Très bien. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup, Manuel.
Oui, je peux faire une dernière pub?
Oui, vas-y.
Et sinon, pour ceux du coin, alors je pense que malheureusement, il n'y aura pas les gens autour de la table. Le 18 janvier, il y a la nuit de la lecture à la médiathèque de Givenchy en Goële. Et donc, on fait des contes à la carte, c'est-à-dire donc, des contes improvisés en fonction des désirs des gens. Donc, les gens donnent trois mots, ils sont dessinés. J'essaye de comprendre ce que veulent dire les dessins. Et à partir de là, j'invente des histoires et les gens peuvent repartir avec les dessins. Et on fait toute une soirée jeux de société. Et il y aura plein d'autres événements, puisqu'il y a aussi des lectures, des apéro-lectures. Et toute la soirée, comme ça, la nuit de la lecture à Givenchy en Goële.
Bien.
Voilà, j'ai fait de la pub.
Ouais, c'est très bien. On mettra les infos sur la page de La Vie des Livres, la page Facebook de La Vie des Livres. Je me tourne maintenant vers celui qui est à côté de toi. Il s'agit de Jean-Yves Vincent, qui nous vient lui aussi du Pas-de-Calais, pas loin d'Heure sur la Lys, donc un peu plus loin, mais voilà. Il est avec nous. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Eh bien, on écoute ton histoire.
Mon Vas-y. Histoire. Alors, un personnage qui s'appelle Léonce Jouexly. Et surtout un autre personnage qui s'appelle Léonce Fernandez, d'origine portugaise. J'ai une affection particulière pour ce vieux monsieur. Ce vieux monsieur qui habite dans un immeuble cité de la Renardière, dans une ville qu'on va situer entre Avion et Divion. On va appeler ça Davion, la ville de Davion. Grand immeuble, troisième étage, pas d'ascenseur. Ce vieux monsieur qui vit seul, veuf, mais qui continue à causer avec son épouse, enfin le portrait de son épouse. Le portrait de son épouse qu'il a posé sur le manteau de la cheminée. Et tous les jours, tout seul dans ce grand immeuble et pas grand monde ne lui dit bonjour, sauf la petite Adia. La petite Adia qui court dans les escaliers, qui le croise, qui lui dit « bonjour ». Et lui a même pas le temps de répondre. Il la voit partir, ses soquettes blanches, un peu comme des queues de lapin, à la lisière d'un bois. « Bonjour !» Et ce jour-là, il va jusqu'à la boîte aux lettres, où le facteur lui a déposé un courrier, une enveloppe. Sur l'enveloppe, écrit en lettres majuscules « Léonce Fernandez ». Il n'y a rien sur l'enveloppe. On ne sait pas d'où elle vient. C'est pas une facture, parce que les factures, il les a toutes payées. C'est, on dirait une lettre anonyme. Alors il prend la lettre anonyme, écrit avec les mots en majuscules, il remonte les escaliers, rentre dans son appartement, montre à son épouse, enfin au portrait de son épouse, l'enveloppe et pose l'enveloppe sur la table. Et puis la journée passe. Il voit l'enveloppe, mais... Et puis la journée passe et puis il décide d'aller se coucher, mais il n'arrive pas à s'endormir. Il se relève, vient chercher l'enveloppe et là, son épouse, enfin plutôt le portrait de son épouse, lui dit « Mais bon sang, mais ouvre-la, donc. Ouvre, de toute façon, tu ne vas pas dormir de la nuit. Ouvre-la cette enveloppe, ouvre-la, hein, point, c'est tout. » Par transparence, dans le néon, on voit des petites formes à l'intérieur de l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe et là, il y a 10 petits carrés de papier. Sur les carrés de papier, il y a des lettres. Il s'amuse avec les carrés de papier et il fait un prénom, Léon, L-E-O-N, Léon, Léon. Lui, c'est Léonce et là, il a écrit Léon. Et puis avec les autres lettres, ça fait J, Jou, Jou. Jouex-li. Léon Jouex-li. Et c'est curieux parce que toute cette solitude qu'il avait, d'un seul coup, eh ben, elle paraît disparaître. Léon Jouex-li, Léon Jouex-li. Le lendemain matin, il s'en va faire ses courses et il s'aperçoit, ce 23 décembre, que la ville est illuminée, que les gens sont joyeux. Léon Jouex-li, il va chercher son pain à la boulangerie. Léon, oh, la boulangère lui dit ça doit être quelqu'un, ça doit être un Polonais, ça. C'est quelqu'un d'origine polonaise, ça. Ouais. Ah, Léon Jouex-li, mon grand ami d'origine polonaise. Et il décide de même de s'acheter une petite bûche. Petite, hein, pour le réveillon. Et puis une mignonnette de champagne. Mignonnette de champagne, voilà, tout joyeux. Et il rentre... Mamie, j'ai invité quelqu'un ce soir pour le réveillon. J'ai invité mon grand ami, notre grand ami, Jouex-li. Oh, t'as bien fait, dit son épouse, enfin plutôt, portrait de son épouse. Sors la nappe de mamie. La nappe, en dentelle, sur la table, les couverts, les beaux couverts du dimanche, 3 assiettes. Une assiette pour le portrait, une assiette pour l'invité et une assiette pour lui. Bon, vous allez dire, il est un peu saoul cet homme, il est un peu fou. N'empêche que à 20h, à l'heure où les invités arrivent, on a tapé à la porte. Il a ouvert la porte et là, il y avait la petite Adia. C'est la petite Adia qui lui disait bonjour, bonjour. Même pas le temps de lui dire bonjour. Elle a filé dans la cuisine. Et les petits carrés de papier. Toc, 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 toc. J, 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 O, O, Y, E, U, X. Et le Léon à l'envers, ça fait Noël. Joyeux Noël. Et la petite Adia venait de lui offrir à cet homme tout seul le plus beau des Noëls.
Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, Jean-Yves. Je ne sais plus où j'en suis. Alors, cette histoire, comme Emmanuela, cette histoire fait partie de...
Alors, c'est ce que j'appelle une histoire d'hiver, parce que je ne la raconte qu'une fois l'an, dans ces périodes de fêtes et ces périodes de solitude pour beaucoup de personnes. Mmh. Donc j'ai une affection justement pour ce personnage de Fernandez, donc d'origine polonaise, hein, qui, et puis aussi pour ce personnage de Jouexli, d'origine polonaise. Voilà.
Très bien. Alors, on peut te retrouver, toi, sur un site, jeanyvesvincent.wordpress.com.
Oui. Voilà. Retrouvez-moi. Voilà. Retrouvez-moi.
D'ailleurs, au passage, je signale que Manuela et Cyril Leroy sont aussi sur Facebook. Hein. Ludiconte, vous tapez, et vous arriverez sur leur page Facebook. Alors, toi, tu es un ancien journaliste, et tu t'es mis au compte et tu as publié plusieurs ouvrages. Et voilà, un de tes derniers ouvrages, c'est Contes des sages du Moyen-Âge. Et puis, aussi, ben, justement, tu nous as ramené un exemplaire. Ça concerne, ben, on faisait allusion à la Pologne, non, c'est.
Voilà, le titre, donc, c'est Contes des sages du Moyen-Âge, qui a été édité au Seuil il y a 2 ans. Grande chance pour moi de pouvoir intégrer cette maison d'édition.
Publié au Seuil. Hein.
Et puis, donc, Contine et Baïki de Pologne, qui est donc une réédition en fait, d'un ouvrage qui avait été fait il y a quelques années. Et celui-là est sorti dans le cadre de la Convention franco-polonaise. Donc, ce sont des contes qui ont été racontés par les enfants des familles polonaises arrivé dans les années 1920, l'immigration de la faim, donc les familles polonaises sont venues travailler chez nous, ont raconté à leurs enfants, et nous on est allé interroger cette génération-là. On a réécrit avec notre imaginaire d'ici ces contes, qu'on a fait relire pour respecter les motifs, etc. Et on a rassemblé ça dans un ouvrage. Il y a également des baïki, des petites comptines, donc avec un peu de polonais, langue polonaise, et langue française. Bon, moi, je manie pas la langue polonaise, ou phonétiquement quelques mots, mais c'est tout.
Et c'est publié
Alors, c'était publié dans le cadre de cette convention, et c'est un livre qui est gracieusement offert et qui sera offert au Salon du Livre de la Couture, donc en début d'année. Voilà, Conte, Contine et Baïki de Pologne, inspiré de la tradition.
Très bien. Et des événements pour toi pour 2020 ou des
Alors,
choses plus proches?
Alors en janvier, donc, on va raconter avec mon compère Patrick Saulnier ses contes dans les médiathèques et les bibliothèques de village. Et en février, le personnage de Lidéric, donc, qui est le géant tutélaire de la région, qui, donc, c'est un spectacle d'un peu plus d'une heure qui sera donné à Ardeloup. Voilà.
Ardeloup, très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves.
Merci.
Eh bien, on se retrouve avec d'autres conteurs et conteuses dans quelques instants. Alors, vous le savez ici, tous les mois, eh bien, on fait un petit tour dans le sud, en Catalogne, avec Judith Aragonès, vers sa chronique d'El Sud. Eh bien, là, elle n'est pas là aujourd'hui pour cette spéciale, mais on va vous proposer quand même de la musique catalane. Et je vous propose Blaumut avec Bicicletes.
Els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de Digues què penses, llum de contrahivern. Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans. Pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí.
deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. Que penses lluny de contra i vent.
C'était Blaumut avec Bicicletes. Eh bien, maintenant, je me tourne vers Liliane Tillois, une conteuse aussi du Pas-de-Calais, mais là, encore plus loin, c'est Boulogne-sur-Mer. Donc, merci d'être là, d'avoir fait tout ce chemin.
Merci beaucoup aussi. C'était un peu difficile avec la circulation. Mais bon, je suis arrivée
mais bon,
à
bon voilà. Il n'y a pas de souci. Eh bien, je t'en prie, emmène-nous dans le monde du conte.
Alors moi, je vais vous emmener en Sibérie. Alors dans ce village en Sibérie, il y avait un homme très vieux qui était trop vieux pour emmener son troupeau de rennes un petit peu plus loin, là où le temps était un peu plus clément, pour trouver du lichen. Et donc sa fille acceptait d'y aller à sa place. Alors elle trouvait qu'elle avait beaucoup de chance parce qu'elle, elle avait un traîneau et contrairement à ses camarades, elle n'était pas obligée de marcher dans la neige gelée. Et surtout, le traîneau était suffisamment grand pour que le soir, elle puisse installer sa tente sur celui-ci. Et puis aussi, elle avait un renne. Un renne qui n'était pas seulement un renne normal, mais aussi un ami et un confident. Et un jour, le renne était complètement paniqué. Il lui a dit « Dépêche-toi, 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 car le croissant de lune qui est juste au-dessus, là, il veut te kidnapper. Avec toute cette neige qui tourbillonne, j'ai le temps de faire un trou. Tu t'y cacheras, on mettra le traîneau au-dessus et ainsi il ne te verra pas. » Le croissant de lune sur son traîneau est descendu. Il a regardé à gauche, à droite. Il n'a pas trouvé la jeune fille. Il est remonté dans son ciel et la jeune fille a trouvé un morceau de lichen qu'elle a donné au renne pour le remercier. Mais le renne était très triste. Il lui a dit « Écoute, je crois que le croissant de lune veut t'emmener avec lui dans le ciel. Il faut absolument que tu te caches. On va trouver quelqu'un pour garder tes rennes, pour qu'ils ne se doutent de rien. On va rentrer au campement. » Mais elle a dit « Au campement, comment me cacher? Il n'y a rien. » Et lui a dit « Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te transformer en ce que tu veux ? Allons au campement. » Et là, au campement, il lui a dit « En quoi veux-tu que je te transforme ?»« En piquet de tente. » »« En piquet de tente, mais c'est bien trop simple, il me trouvera. » »« Eh bien alors, en une des planches qui forment le lit. » »« C'est bien trop facile, il me trouvera. » »« En ustensile de cuisine. » »« Il y en a si peu. » Il me trouvera. Je sais, dit-elle, tu vas me transformer en flambeau, ainsi je brillerai comme lui et il ne se doutera de rien. Et de chaque côté de la pauvre tante, il y a eu deux flambeaux qui brillaient. Juste à cet instant, le croissant de lune est descendu. Il s'est enroulé autour de chacun des piquets de la tente. Il est passé en dessous des planches de bois qui formaient le lit. Il est passé à l'intérieur des ustensiles de cuisine. Il a fait trois fois le tour de la tente. Il n'a rien vu. Alors, d'une humeur joyeuse, elle a sorti sa tête du flambeau et elle a dit « Me voici !» Le croissant de lune a recommencé ce qu'il était déjà en train de faire la fois précédente. Il s'est enroulé autour de chacun des piquets de tente. Il a regardé dans chacun des ustensiles. Il est allé sous les planches de bois. Il n'a rien trouvé. Il est ressorti et elle a remarqué qu'il avait perdu un peu de son éclat. Alors elle est sortie de l'autre côté du flambeau et elle lui a dit « Eh oh, tu n'es pas très douée, me voici !» Là, cette fois, il était très en colère. Il a recommencé son inspection, minutieusement, et il n'a rien trouvé. Et puis, il s'est écroulé là, devant la tente. Elle s'est précipitée, elle l'a ficelé. Oh, il lui a dit « Tu peux faire de moi ce que tu veux. J'ai voulu te kidnapper, j'ai voulu t'arracher au tien. Mais je t'en supplie, donne-moi cette couverture de renne qui est là-bas, j'ai si froid. » « Tu as si froid, mais enfin, tu es toujours aux intempéries, je ne comprends pas. »« J'ai froid, » a dit le croissant de lune, « car je ne brille pour personne et je n'ai pas de sens à ma vie. »« Alors laisse-moi vivre et laisse-moi briller pour toi et pour ton peuple. »« Je t'en supplie, donne-moi une raison de vivre. »« Je serai le signe de ton peuple. » Je serai la marque des jours qui passent. Je serai le témoin des amours entre les reines. Je serai témoin du moment où ils perdent leur bois. Je serai témoin des jours où les fans naissent. Je serai le témoin des jours où les hommes sont heureux. Le témoin des jours où les hommes pleurent. Et surtout, une fois par mois, je brillerai pour ton peuple. Et je serai celui qui brille dans le ciel. » Émue, la jeune fille a laissé partir le croissant de lune et elle est retournée avec son renne pour garder le troupeau. Chaque soir, elle regardait le croissant de lune et elle avait l'impression qu'il lui souriait. Et c'est depuis ce jour-là que le croissant de lune brille pour nous. Et je vous souhaite, juste avant ces fêtes de Noël, qu'il vous suffise de faire un vœu et de regarder le croissant de lune pour que ce vœu puisse s'exaucer.
Eh bien, merci beaucoup Liliane. Alors, comme je le demande à toutes et à tous, ça fait partie d'un de tes spectacles ?
Ça fait partie des contes pour réchauffer les cœurs l'hiver, parce que comme disait Jean-Yves, moi j'aime bien les contes d'hiver qui redonnent un peu d'espoir. Et en cette période un peu agitée en ce moment, je trouvais que c'était nécessaire de redonner un peu de joie dans le cœur des hommes. Et le conte, c'est un peu pour ça qu'il est fait, je crois. Alors, ça fait partie de contes pour réchauffer les cœurs l'hiver. Donc il y a beaucoup de contes sibériens, de contes russes.
Ok. Oui. Et donc toi, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Sur Facebook et Instagram, tu es assez active. Et puis, on peut te retrouver également sur un site qui est en train de se refaire. Hein,
grâce à toi, d'ailleurs.
Qui va se refaire. Oui. Alors, liliantilois.wordpress.com. Et donc, tu as des points communs avec Jean-Yves, puisque la Pologne, tu as des affinités aussi avec la Pologne. Tu as des origines polonaises. Et tu as, je ne sais pas si on peut en parler, tu es en train de préparer un ouvrage ce sujet.
C'est difficile, hein. Je suis en train d'écrire un livre qui est un récit de vie des émigrés qui sont arrivés en 1925 et comment nous, qui n'avons pas eu la transmission de notre culture, on peut vivre finalement cet entre-deux, puisqu'on n'a pas eu la transmission de notre culture, mais elle apparaît quand même quelque part dans nos gènes. Donc c'est une histoire qui est bien sûr autobiographique, mais nourrie de beaucoup d'exemples qui sont éloignés de moi. C'est aussi une fiction, mais j'ai aussi travaillé sur l'émigration polonaise en 1925, donc avec ma grand-mère, mes grands-parents, etc. Et c'est toute cette histoire de personnes qui sont arrivées non pas dans le pays minier, mais dans l'aube, que j'essaie de raconter à travers la vision de 6 femmes différentes. Donc c'est un peu difficile. J'en suis au 9e chapitre. Voilà, j'espère qu'un jour ça pourra sortir. Donc c'est ce que je me suis fixé comme objectif pour l'année.
Puis un autre ouvrage en préparation avec de l'illustration aussi.
Alors là, oui, c'est avec une plasticienne qui avait fait des méduses, et donc qui s'appelle Christine Machinia, qui travaille à Ardelot. Et donc j'ai écrit une histoire sur la préservation du littoral. Donc là, elle est finie. Elle doit l'illustrer et nous l'envoyons donc à l'éditeur.
Très bien. Et puis, des choses à annoncer prochainement ?
Là, ça va être surtout des ateliers d'écriture avec des enfants, donc dans des écoles. Et pour les autres, j'attends les réponses dans les maisons de retraite avec la petite Mercière de la rue de Saint-Omer, qui est un spectacle qui rassemble des récits de vie et des contes sur la broderie.
Ok. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Liliane. Eh bien, on mettra ces infos sur la page de La Vie des Livres. Eh bien, pour terminer cette première heure, je vous propose une histoire que Christophe Grimont-Pont, un auteur, lui, de L'Isle-et-la-Noix, si je ne me trompe pas. Et donc, il a enregistré il y a quelques jours ici une histoire. Il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Et je vous propose de l'écouter tout de suite.
Autrefois, il y a bien longtemps, il y avait une jeune femme qui se baladait dans la forêt avec son mari. Elle avait un ventre aussi rond qu'une lune, car elle attendait un enfant. Et voilà qu'elle passe à côté d'un jardin de fées. Et dans le jardin de fées, il y avait des beaux bouquets de persil. Alors elle a dit à son homme, « Oh, s'il te plaît, cueille-moi un bouquet de persil, j'en ai tellement envie !» Et l'homme a dit, « Non, c'est un jardin des fées, et il est hors de question que j'y rentre. » Mais je t'en prie, tu sais très bien ce que ça fait quand une femme est enceinte et qu'elle a une envie de persil. Tu ne voudrais pas que notre enfant naisse avec un bouquet de persil sur la tête en guise de cheveux. Mais l'homme resta inflexible. Alors la femme, n'y tenant plus, pénétra dans le jardin des fées. Elle s'approcha d'une belle botte de persil, la saisit délicatement afin de pouvoir tirer le feuillage et la racine qui se mange aussi. Et sitôt qu'elle l'avait sortie de terre, une fée est apparue qui était fâchée, courroucée, et qui lui promettait 1000 morts plus atroces les unes que les autres. Alors la jeune femme expliqua, elle attendait un enfant, elle avait envie de persil, et si la fée le voulait, elle pourrait être la marraine. Alors la fée s'apaisa, la fée remercia la jeune fille et lui dit qu'elle serait la marraine de son enfant à venir. Quelque temps plus tard, la jeune maman mit au monde une belle petite fille avec des yeux bleus et des cheveux aussi blonds que l'or ressemble au soleil. Elle présenta l'enfant à la fée et la fée sourit à l'enfant et dit, ta fille ne manquera de rien. Je viendrai la chercher quand elle sera un peu plus grande. Et le temps passa, et quand la jeune demoiselle fut assez grande, eh bien la fée, sa marraine, vint la chercher et l'emmena avec elle. Et comme elle était belle, elle l'enferma dans une tour, sans porte, afin de la soustraire un peu au monde. Car elle disait à la jeune fille, méfie-toi des hommes, méfie-toi du monde. C'est ainsi que la jeune fille, qui avait reçu pour nom Persinette, en souvenir de ce bouquet de persil que avait désiré sa mère, c'est comme ça que Persinette grandit dans cette tour, avec la seule compagnie de sa fée, la marraine, et puis d'un perroquet et d'une petite chienne qu'elle lui avait offert. Elle passait son temps à mitonner des bons petits plats pour sa marraine de fée. Elle faisait aussi de la dentelle. Et puis, elle passait aussi une bonne partie de son temps à brosser ses longs et blonds cheveux. Et quand la fée marraine venait, pour pouvoir monter en haut de la tour, elle disait à Persinette, « Persinette, laisse tomber tes cheveux et fais-moi monter !» Alors Persinette déroulait ses longs cheveux qu'elle tressait en nattes à travers un anneau magique pour qu'elle ne ressente point la douleur. Et elle laissait descendre ainsi ses cheveux. Et quand la fée s'en servait comme d'une corde à nœuds, eh bien, elle, de son côté, remontait tout doucement la longue natte. Et ainsi, elle pouvait passer du temps avec sa marraine. Mais il arriva un jour que le fils du roi, qui chassait par là, vit le manège de la fée. Alors il se posta en bas de la tour et, contrefaisant sa voix, il appela Percinette. Et celle-ci, ne se méfiant guère, laissa descendre ses longs cheveux. Quelle ne fut pas sa surprise de voir un beau jeune homme arrivé par la lucarne à la place de sa marraine. Le jeune homme, lui, fut tout aussi surpris de voir comment Percinette était belle. Ils se plurent et ils passèrent du bon temps ensemble. Dès lors, le prince revenait chaque jour, mais il arriva une fois que, alors qu'il était dans la tour, la fée marraine revint. Alors il se cacha sous le tas de dentelles que Percinette avait brodé. Et quand la fée fut dans l'appartement en haut de la tour, le perroquet dit alors
« Madame la fée, sous la dentelle, il y a le prince, sous la dentelle, il y a le prince !»
La fée était un peu sourde. Elle demanda à Percinette de lui dire ce que le perroquet avait dit. « Il dit que j'ai marqué ma dentelle. »« Oh bien, si ce n'est que ça, ce n'est pas bien grave. » Dès lors, Percinette se méfia du perroquet. Et quand le prince était là et que la fée arrivait, eh bien, elle pensait, avant qu'elle n'arrive, à des stratagèmes. Ainsi, un jour, elle lança de l'eau devant la fenêtre. Et quand la fée arriva et que le perroquet lui dit
« Madame la fée, le prince est sous la dentelle, le prince est sous la dentelle !»
La fée demanda à Percinette « Que dit-il ? » « Je ne sais pas. Demandez-lui le temps qu'il fait. » « Alors, perroquet, quel temps fait-il ? » ?»«
Eh bien, il a plu aujourd'hui, il a plu !»«
Tu es un menteur, perroquet. » Et un autre jour, Percinette avait pris la précaution de faire tomber de la farine devant la fenêtre. Et quand la fée est arrivée et que le perroquet a dit
« madame la fée, le prince est sous la dentelle, le prince est sous la dentelle !»
Quand elle lui a demandé le temps qu'il avait fait, le perroquet a dit qu'il avait neigé. Alors elle lui a dit qu'il était un menteur. Au bout d'un temps, le prince et Percinette décidèrent de s'enfuir. Alors ils s'en allèrent. Et quand la fée appela Percinette, personne ne répondit, hormis le perroquet.
« je vous l'avais dit, le prince était sous la dentelle, le prince était sous la dentelle, et maintenant il est parti avec la demoiselle, il est parti avec la demoiselle !»
Alors la fée se mit à poursuivre Percinette et le prince. Et elle lui criait de loin « Percinette, Percinette, arrête-toi, retourne-toi, au moins dis-moi au revoir !» Et Percinette à chaque fois disait « Non, je ne veux pas me retourner, car je sais que grand malheur il m'arriverait !» Mais le prince, touché par les appels déchirants de la fée, arriva à la convaincre. Et dès qu'elle fut tournée vers la fée, celle-ci lui dit « Pour ta punition !» Parce que tu t'enfuis sans demander permission, je t'affuble d'un bec d'âne, que le bec d'âne te soit en place du nez et du visage. Et voilà la belle Percinette affublée d'un mufle d'âne, d'un museau d'âne. Bon, les oreilles n'y étaient point, mais sa plastique au niveau facial avait été gravement modifiée. Bon, le prince toutefois l'amena au château, mais le roi ne voulut point la recevoir. On l'enferma dans un recoin du château et elle avait ordre de ne point sortir. Le roi avait trois fils. Et un jour, il annonça à la cour que celui de ses trois fils qui ramènerait la plus belle femme, celui-là aurait le royaume en héritage. Percinette, ayant entendu cela, elle dit à sa petite chienne qu'elle avait emportée dans sa fuite « Ma petite chienne, ma jolie, s'il te plaît, va voir ma fée la marraine et demande-lui par pitié qu'elle me rende mon visage et qu'elle reprenne son vilain bec d'âne. Va, ma petite chienne, et ne t'arrête que quand tu l'auras trouvée. » La petite chienne se mit en route et se mit à courir à travers la cour du château, passa le pont-levis et s'élança sur les routes. Or, pendant le temps qu'elle était enfermée, le fils aîné du roi qui l'avait trouvé dans sa tour l'avait complètement délaissée. Le plus jeune fils, lui, était venu la voir, et plein de compassion, avait tenu compagnie à la jeune fille. Alors, avec le temps, des liens s'étaient créés, mais Percinette, avec son bec d'âne, était si peu jolie, si peu gracieuse. Mais petit à petit, le jeune homme lui avait trouvé un charme autre, et si ce n'était que son bec d'âne, oh, il l'aurait bien épousé. La petite chienne, à force de courir, de sauter au-dessus des fossés, de passer dans les fourrés, retrouva la tour et retrouva la marraine. Elle lui expliqua tout. Elle lui expliqua Percinette enfermée, les trois fils mis en compétition, et celui qui ramènerait la plus belle des femmes posséderait le royaume. Alors la fée marraine trouva que sa punition avait duré assez longtemps, et d'un souffle rendit à Percinette sa beauté d'autrefois. En quelques instants, Percinette retrouva son doux et beau visage. Et comme cette transformation s'opéra alors que le plus jeune des fils du roi lui avait promis de l'épouser quoi qu'il arriverait, eh bien, elle se retrouvera à être la plus belle fille du royaume. Et quand le plus jeune des fils arriva devant son père, tenant Percinette par la main et lui présentant celle qu'il avait choisie, alors le roi dit « C'est toi qui seras le prochain monarque. » Et c'est ainsi que Percinette, épousant le plus jeune des fils qui avait su la regarder autrement, devint une reine aimée et appréciée de ses sujets. Et savez-vous? Eh bien, elle prenait garde que toutes les femmes enceintes du royaume puissent disposer de persil quand cela leur chanterait.
Voilà, c'était Christophe Grimompon. Et donc, je vais vous donner quelques petites infos pour ces prochains spectacles. Eh bien, Christophe Grimompon sera bientôt à Mont-Saint-Barœul pour le potager de Monsieur Grossec. Donc, l'endroit, c'est Le Lien, 4 places de l'Europe à Mont-Saint-Barœul. Donc, vendredi 27 décembre à 18h30. Donc pour le potager de Monsieur Grossec. Alors je vous fais un peu le pitch. Monsieur Grossec est un monsieur qui adore cultiver son jardin. Il habite dans un petit appartement. Le balcon est bien petit pour y cultiver de bons légumes. Il les fait pousser sur la parcelle des jardins communautaires qu'il occupe. Mais quand il se rend compte que ces légumes rendent malade son épouse, il décide de s'écarter des conventions. Il se montre même déraisonnable. Le voilà qui se lance dans d'autres méthodes. Mais ce n'est pas du tout du goût de M. Wurm, le président des jardins communautaires, qui ne jure que par les engrais et les pesticides. Et le voilà bientôt privé de terrain. M. Grossec fait alors connaissance de ses nouveaux voisins de balcon, M. et Mme Rose. Ensemble, ils décident de créer une alternative à la doctrine des jardins communautaires. Et M. Grossec découvrira que le bonheur et l'amitié se cultivent également dans les potagers. Donc voilà donc un spectacle de contes à tiroir pour imaginer la ville autrement, durablement et en enchantement. Voilà. Et donc l'entrée est libre et c'est donc le 27 décembre et il y aura une autre représentation, je crois, le 3 janvier, mais là, je n'ai pas l'horaire. Voilà. Et puis, à signaler également, puisque Christophe Grimompon s'occupe plus ou moins avec l'association Les Féeriers d'une scène ouverte à la ferme d'en haut à Villeneuve-d'Ascq. Ça a lieu tous les premiers dimanches du mois, sauf là, en janvier, ça n'aura pas lieu. Donc, la prochaine, ce sera le 2 février à 15h30, une scène ouverte aux contes et aux arts de la parole. Donc c'est de 15h30 à 18h30 à la ferme d'en haut. l'estaminet, le carré rond à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Eh bien, donc, cette première heure se termine. On se retrouve en seconde heure avec Caroline Dewell, Mathilde van der Rusten, Fabien Delorme et Florence D'Argent qu'on attend d'ici peu. J'espère qu'elle sera avec nous, sinon on inversera un peu l'ordre prévu et puis on verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas, on se retrouve en deuxième heure. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, après quelques pubs.